Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonjour. Un adolescent parisien de 15 ans mis en examen et placé en détention provisoire, lui aussi a été en contact avec Rachid Kassim, l'un des recruteurs de l'État islamique en Syrie. Nous ferons le point avec Sophie Parmentier au début de ce journal. Un avocat de Nantes conteste l'interdiction de consultation des sites faisant l'apologie d'actes de terrorisme. Il vient de déposer une question prioritaire de constitutionnalité. Stéphane Beaumont sera en direct. Il va nous aider à décrypter les ressorts juridiques de cette affaire en tant que constitutionnaliste. À l'étranger, une nouvelle attaque au couteau contre un soldat israélien en Cisjordanie, la cinquième en moins de 24 heures. Nous irons en Israël. Au Venezuela, le président Maduro tente de se refaire une place sur la scène internationale avec le mouvement des non-alignés. Explication à suivre de Maïwen Bordron. Enfin, les journées du patrimoine sont boycottées par les anciens mineurs de Wani dans le Pas-de-Calais. Ils protestent contre le report des travaux de rénovation de la fosse 99 bis inscrite au patrimoine mondial de UNESCO. Des jeunes Français téléguidés par des recruteurs de l'État islamique. Le phénomène n'est pas nouveau, mais tend à s'accroître selon les services de renseignement. Hier, un adolescent de 15 ans, arrêté mercredi à Paris, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il était soupçonné de vouloir mener une attaque djihadiste. C'était l'un des meilleurs élèves de la classe, de sa classe. Il avait de très bonnes notes. Voilà comment ses camarades évoquent le lycéen. Comme les deux autres adolescents interpellés ces derniers jours, il aurait reconnu, Sophie Parmentier, avoir des contacts avec le recruteur djihadiste Rachid Kassim.
L'adolescent de 15 ans qui a été mis en examen par un juge antiterroriste a reconnu qu'il était inscrit sur l'une des chaînes Telegram de Rachid Kassim. Via la messagerie cryptée, le lycéen a donc échangé avec ce propagandiste de Daesh qui multiplie les appels à commettre des attentats. Kassim lui a demandé s'il pouvait commettre une attaque terroriste. Il lui aurait suggéré des cibles. C'est en tout cas ce que déclare le lycéen. Un lycéen qui était jusqu'alors un très bon élève dans un établissement parisien, un élève sans histoire qui pratiquait aussi le tennis. Se préparait-il vraiment à perpétrer une attaque au nom de Daesh quand les policiers de la DGSI sont allés l'interpeller ? Lui assure que non, qu'il n'en avait pas l'intention, mais les enquêteurs en doutent. Des enquêteurs qui ont découvert que ce lycéen était attiré par l'organisation État islamique depuis plusieurs mois, une attirance que l'adolescent de 15 ans n'a pas niée.
Et si vous voulez poursuivre sur ce sujet des recruteurs de l'État islamique, sur notre site internet franceculture.fr, un dossier est à votre disposition. C'est une enquête sur Fabien Klein, l'homme qui a revendiqué les attentats du 13 novembre à Paris et qui est le mentor de toute une génération de djihadistes. Intéressons-nous maintenant à cette question prioritaire de constitutionnalité déposée hier par l'avocat d'un habitant de la ville d'Angers. Son client vient d'être condamné à 2 ans de prison pour consultation d'un site djihadiste. Il s'était inscrit au sein d'un groupe diffusant des vidéos et des messages audio de Daesh, vidéos qu'il consultait sur son téléphone portable via l'application Telegram. Bonjour Stéphane Beaumont.
Bonjour.
Vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit public à l'université de Toulouse 1. Alors l'avocat qui vient de déposer cette QPC estime que l'interdiction de consulter des sites faisant l'apologie du terrorisme est contraire à la Constitution car elle crée une rupture d'égalité entre les citoyens, certains bénéficiant d'une dérogation comme les journalistes ou les chercheurs et non pas les autres. Alors tout d'abord, que pensez-vous de cette QPC, Stéphane Beaumont ? Est-ce qu'elle est légitime ?
Toute question prioritaire de constitutionnalité est légitime et c'est moins à moi d'y répondre qu'au Conseil d'État ou à la Cour de cassation qui la fera passer devant le Conseil constitutionnel ou pas au bout d'un certain délai. Donc nous avons affaire là à un problème qui se pose et qui s'est déjà posé et qui conduit à s'interroger sur l'application de la Constitution, l'application de la Convention européenne des droits de l'homme et l'application de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans ses articles 10 et 11 relatifs à la liberté d'expression et à la liberté de communication des pensées. On peut ajouter également, on en parle peu, que dans ces différentes affaires, l'interdiction de lire ou d'écouter ou d'aller voir ce qu'il y a sur un site djihadiste peut faire l'objet d'une recherche de la part d'un universitaire, par exemple, ou de la part de tout citoyen qui est en recherche. Et on peut dire que le Conseil constitutionnel a examiné ce genre de cas, notamment dans sa décision du 29 juillet 1994, quand le Conseil a reconnu le statut constitutionnel de la liberté de recherche. Là aussi, ça peut intervenir et l'avocat de l'habitant d'Angers peut en parler.
Alors cette QPC, c'est aussi une illustration du savant équilibre à trouver entre sécurité et liberté dans une démocratie. Dans le contexte actuel, c'est encore plus délicat.
Oui, c'est la vieille expression toujours d'actualité de Montesquieu qui disait que la liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent, et si un citoyen pouvait faire ce qu'elles défendent, il n'aurait plus de liberté parce que les autres auraient tout de même ce pouvoir. Donc on est toujours dans la dialectique liberté-sécurité. Plus je souhaite de sécurité, moins j'ai de liberté. Et n'oublions pas que l'addition de l'interprétation de la Constitution, des différentes jurisprudences, des différents jugements, des différents arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme, s'ajouter à l'état d'urgence font que nous avons un flou du droit, surtout comme nous l'avons vu dans les derniers jours, où un ex-président de la République, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, est venu contester ou a été contesté par le procureur de la République, M. Molin, sur l'interprétation de l'état d'urgence et des libertés à l'intérieur de l'état d'urgence.
Merci Stéphane Beaumont d'avoir été en direct dans le journal de France Culture. Vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit public à l'université de Toulouse 1. Le militant de Sud, grièvement blessé à l'œil jeudi lors de la manifestation parisienne contre la loi travail, va porter plainte contre les forces de l'ordre, annonce ce matin le syndicat. Cet homme âgé de 46 ans a vraisemblablement reçu au visage un morceau de grenade lancé lors de la mobilisation. Le parquet de Paris a saisi l'inspection générale de la police nationale. Il symbolise pour le Front National la jeunesse, le travail et le mérite. Marine Le Pen a choisi le Benjamin du Sénat, David Rachline, pour diriger sa campagne pour la présidentielle. À 28 ans, il est aussi le maire de Fréjus, où la présidente du FN organise ses estivales aujourd'hui et demain. Et puis le Parti Socialiste a lancé ce matin ses universités de l'engagement à l'homme dans le Nord. L'événement remplace l'université d'été de La Rochelle, qui n'a pas pu se tenir cette année pour raison de sécurité. Un rendez-vous qui pourrait aussi marquer la réconciliation entre Martine Aubry et François Hollande. La maire de Lille s'exprimera d'ailleurs cet après-midi. En Israël, l'ancien prix Nobel de la paix Shimon Peres, toujours dans un état stable 4 jours après son accident vasculaire cérébral. Par ailleurs, ce matin, un soldat israélien a été blessé au couteau en Cisjordanie à Hébron. L'agresseur, un Palestinien de 25 ans, a été tué selon l'armée israélienne. Après une accalmie de 3 semaines, c'est la 5e attaque au couteau en moins de 24 heures. Et à Jérusalem, les autorités s'inquiètent. Daniel Tabor.
Les responsables sécuritaires israéliens s'inquiètent en effet. 5 attaques anti-israéliennes en 24 heures, cela fait inévitablement remonter la tension. Ce matin, c'est à l'entrée d'Hébron qu'un soldat a été blessé au couteau par un Palestinien lors d'un contrôle d'identité. L'assaillant a été abattu par les soldats. Hier, même scénario, à un autre point de contrôle, près d'Hébron également. Et puis auparavant, il y avait eu une tentative d'attaque à la voiture Bélier à l'entrée de Kiryat Arba, la colonie juive d'Hébron. Attaque au couteau également, porte de Damas à Jérusalem. Là, c'est un jeune Jordanien de 20 ans, armé de 2 couteaux, qui s'est lancé en direction des gardes-frontières au cri de « Allahu Akbar » et a été abattu. On a signalé également de nombreux jets de pierres contre des autobus sur la route qui relie les quartiers est et ouest de Jérusalem. Pourquoi ce regain de violence? La question reste posée. L'armée, qui poursuit ses enquêtes sur tous ces incidents, craint encore plus de violence à l'approche des fêtes juives début octobre. Plusieurs commentateurs soulignent, eux, que cela pourrait bien être lié à l'accord sur l'aide militaire américaine à Israël qui vient d'être signé. Le Hamas et le djihad islamique ont en effet publié des communiqués dénonçant vivement, je cite, « le soutien américain à l'occupant ». En tout cas, sur le terrain, l'armée israélienne renforce ses mesures de sécurité.
La correspondance de Daniel Tabor. C'est un sommet qui porte le parfum de la guerre froide. Le Venezuela accueille à partir d'aujourd'hui le mouvement des non-alignés, mouvement créé il y a plus de 50 ans pour s'opposer à la logique des blocs. Après l'Iran, le Caracas en prend la présidence tournante pour 3 ans. Bonjour Maïwenn Bordron.
Bonjour Anne.
Le pays est secoué par une grave crise politique et économique et espère ainsi se refaire une place sur la scène internationale.
Le sommet a tout dû
une aubaine pour le président Nicolas Maduro. Le Venezuela est de plus en plus isolé sur la scène internationale. Il y a 3 jours, par exemple, Caracas s'est vu retirer la présidence tournante du Mercosur, le marché commun sud-américain. Et le Venezuela risque même d'en être écarté s'il ne se conforme pas aux normes juridiques de l'organisation régionale avant le 1er décembre. Avec le sommet des non-alignés, Nicolas Maduro cherche donc à rompre cet isolement. Le mouvement n'a certes plus la même utilité qu'au moment de sa création en 1961. En pleine guerre froide, il visait à réunir les pays du tiers-monde qui ne voulaient s'aligner ni sur le bloc occidental, ni sur le bloc soviétique. Après avoir été fragilisé, le mouvement s'est renouvelé en 2012 lors du dernier sommet de Téhéran. Plusieurs dizaines de chefs d'État et même Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, avaient alors fait le déplacement en Iran. 4 ans après, ce nouveau sommet accueilli par le Venezuela ne semble pas aussi attractif, car d'après El Nacional, un journal de l'opposition, seuls 19 des 120 pays membres comptent s'y rendre. Enfin, c'est l'île caribéenne de Margarita qui accueille le sommet. Un choix peu opportun pour faire oublier les tensions qui secouent le Venezuela. Il y a moins de 2 semaines, Nicolas Maduro avait été hué et avait dû quitter l'île touristique sous les insultes et dans un concert de casseroles.
Merci Maïwenn Bordron pour vos explications. En Colombie débute aujourd'hui la 10e et dernière conférence de la guérilla des FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie. Le groupe armé qui a signé le mois dernier un cessez-le-feu définitif avec le pouvoir après plus d'un demi-siècle de guerre devrait annoncer son désarmement et sa transformation en mouvement politique. Explication Zoé Berry.
Plusieurs centaines de personnalités politiques et de journalistes sont attendus pour le grand raout de la guérilla. Les commandants marxistes annonceront ces jours-ci la fin du mouvement armé né en 1964 en Colombie et son passage à la vie civile. Pour l'occasion, les rebelles ont monté une sorte de citadelle à 5 heures de route de San Vicente del Caguán, dans le centre du pays, leur fief historique. Après un conflit qui a tué près de 300 000 personnes, les combattants ratifieront l'accord de paix trouvé à La Havane le 24 août avec le pouvoir. Le texte est depuis lors analysé par la troupe dans les campements éparpillés sur le territoire colombien et devrait être approuvé sans modification. La guérilla annoncera la création d'un mouvement politique grâce auquel ses chefs espèrent lutter pour les idées qu'ils ont jusqu'ici défendues, les armes à la main. Leur participation en politique est incluse et garantie par l'accord de paix. Certains devront auparavant passer par un tribunal de justice transitionnel pour dire la vérité sur les crimes commis. Ceux qui parleront ne devraient écoper que de 5 à 8 ans de restrictions sur la liberté sans prison, le gros de la troupe sera amnistié. L'accord final sera signé le 26 septembre au cours d'une cérémonie, puis le texte soumis à référendum. Selon les sondages, la majorité des Colombiens approuve l'accord trouvé avec la guérilla.
Dans le Pas-de-Calais, les journées du patrimoine se feront sans les anciens mineurs de la fosse 99 bis Douani. L'association qui entretient et remet en état les machines a décidé de boycotter l'événement. Association formée donc par ces anciens mineurs qui se sont mobilisés dès la fermeture du puits en 1990 afin d'éviter sa destruction. Ils protestent contre le report des travaux de rénovation de la salle des machines, travaux qui auraient dû commencer cette année et ça ne sera pas finalement avant 2020. Claire Mesureur, les ex-gueules noires ont l'impression d'être menés en bateau.
Et Dieu sait qu'ils ne ménagent pas leur peine. Tous les lundis, ils sont là, sur le site, et œuvrent à la conservation des machines de la fosse. Sans eux, toutes les installations seraient sans doute bouffées par la rouille aujourd'hui. Sans eux, la machine d'extraction ne serait pas la dernière de la région à pouvoir tourner. Jean-Marie Minot, le vice-président de l'association, ne décolère pas.
On a fait tourner la machine en 2002. Et après, on a rénové toutes les machines du site. De Vingontreuil, ça fait 2 ans qu'on est dessus. On ne ménage pas notre peine. On est 5 ou 6, hein. Tous septuagénaires, ou presque. Hein. Voyez un peu le travail que ça peut donner. C'est pas un travail de joueur de cartes. Hein. Il faut gratter, meuler, c'est un travail.
Un coût des travaux trop élevé, l'obligation donc de rechercher des subventions, et notamment européennes. Le calendrier est donc retardé. Les anciens ont l'impression qu'on les mène en bateau. Il n'y aura donc pas de visite guidée des installations ce week-end.
On se saborde, hein, parce que c'est notre plaisir. Rencontrer les visiteurs, c'est notre plaisir. Discuter avec eux, parler de notre passion, mais on se saborde, tant pis. Mais on ne le fait pas.
Pire, si rien ne bouge d'ici là, ils menacent de dissoudre l'association à l'occasion de la Sainte-Barbe en décembre prochain.
Et à l'occasion de ces journées du patrimoine, notez que la Maison de la Radio et France Culture se visitent également. Renseignements sur le site internet radiofrance.fr. La météo, c'est de la grisaille dans le nord, la Normandie et la région Rhône-Alpes. Des nuages également à l'est. En revanche, de belles éclaircies font leur retour du nord de l'Aquitaine à la Bretagne, malgré une atmosphère plus fraîche. Cet après-midi, il fera 18 à Lille et Paris, 19 à Strasbourg, 20 à Toulouse, 21 à Marseille et 24 à Ajaccio.